Sistar voit en rouge à Sisteron. C'est une exposition collective intitulée « Rouge » que les artistes sisteronnais présentent en ce moment à la galerie L'Atelier au 36 rue Mercerie. Christophe Ponsard, président de Sistar, et de nombreux artistes répondent au micro de Chris Alessandri.
Christophe Ponsard, nous sommes au cœur d'une exposition, effectivement qui ne manque pas de chaleur, mais également de vie. Une exposition que vous avez désirée, que vous avez souhaitée, et vous avez fait appel à bon nombre d'artistes. Ce rendez-vous, nous y sommes et nous allons en parler avec les artistes qui sont ici. Je vous demande de nous les présenter, ces artistes. Christophe Ponsard, vous êtes le président de Sistart.
Oui, bonjour. Alors effectivement, c'est une exposition rouge, qui s'appelle Rouge, donc dont le thème est rouge, et qui regroupe cette fois-ci 27 artistes, donc et professionnels et amateurs. C'est vrai que je peux éventuellement les présenter un par un. Donc il y a Irina Irunescu qui est de Digne, qui avait une petite galerie à Sisteron. Il y a donc Jean-Jacques Ligaud qui est aussi un des commissaire de cette exposition, qui a mis en place cette exposition. Il y a Sylvie Siojoar de Volonne. Il y a Mireille Josepha François. Il y a Sabrina Jaber qui est de l'Escale. Il y a donc Jean-Marc Foulon, qui est le deuxième commissaire aussi de cette exposition. Il y a Léa Carpentier, qui est de Sisteron. Il y a Catherine Hall, aussi une superbe professionnelle, donc spécialiste du trompe-l'œil, qui nous bluffe un petit peu sur cette exposition. Il y a donc Robert Wendel, qui est une de ses premières expositions en public, qui nous régale avec son Van Gogh. Il y a donc Denise Brissot de Gap. Il y a Thierry Peters de Sisteron. Il y a Sylvie Poignet Testu pour une superbe photo, tout en rouge aussi. Et notre ami aussi Stéphane Ropers qui nous régale aussi avec sa petite photo noir et blanc et un peu avec cette surprise. Et c'est un grand régal de le voir dans ce lieu. Il y a Audrey Barbati, donc sur une petite sculpture en papier mâché, associée à Véronique Soriano en écho avec une peinture et un totem. Il y a donc aussi Laurence Villon, donc c'est aussi la première exposition et qui nous régale avec ses gravures sur du lino, donc c'est aussi assez particulier à voir. Il y a Isabelle Vivet, qui est là donc avec nous cet après-midi, qui pourra aussi commenter un peu son œuvre et qui nous régale aussi avec un petit dessin inhabituel parce qu'on a plus l'habitude de la voir avec des céramiques. Et ça, c'est la petite surprise des visiteurs. Il y a aussi Jean-Marc Janceau qui nous fait le plaisir de nous prêter aussi une de ses œuvres. C'est quelqu'un d'assez sauvage et qui donc nous fait confiance. Voilà, c'est très sympa. Il y a Colin Smirou McBride qui nous fait aussi le plaisir de nous apporter ses couleurs un peu fantasques. Il y a donc Mandine qui nous fait un battement de cœur intéressant. Il y a donc aussi Elisabeth Buet sur tout un froissé qui est très intéressant. Notre amie Charlotte Avré qui nous fait aussi un texte très intéressant. Il y a Félix Dion, voilà, qui aurait pu être de Valbel, mais qui nous fait donc de la corrida cette fois-ci. Monica Robin, qui est notre amie sous le nom de Picaflor, voilà, céramique. Il y a Denise Brissot, voilà. Jackie Mougin aussi pour des photos. Donc aussi, avec un grand plaisir, nous avons accueilli aussi Daniel Riquejo avec une sculpture, un montage de nature. C'est vraiment une petite merveille. Il a mis un an pour fabriquer ça. Avec tout un rite, c'est vraiment assez particulier à voir et touchant. Qui nous fait le plaisir de cette belle toile.
Et à nos côtés, nous avons deux artistes qui font partie donc de cette exposition, qui sont avec nous aujourd'hui.
Oui, alors en premier, parce que sans qui cette exposition n'existerait pas, en fait ne serait pas en place, c'est un des deux commissaires de cette exposition, donc Jean-Jacques Ligaud, qui donc est aussi peintre à l'occasion, surtout. Surtout avant tout sa passion, voilà, surtout sa passion, et donc accompagné d'Elisabeth Vivet, voilà.
Alors je vais vous demander tout de suite vos motivations, pourquoi cette exposition, et puis parler un tout petit peu des œuvres que vous avez ici aujourd'hui en présentation, disons que vous dévoilez au public.
Alors, la motivation, c'est pour répondre à la motivation, elle est générale à partir d'un thème qui a été proposé en réunion d'association. On propose plusieurs thèmes et puis il y en a un qui est choisi. Ici, ça a été le rouge. Donc, on s'est motivé pour le rouge. Et puis, chacun a fait son travail. Personnellement, donc, j'étais commissaire d'exposition, comme beaucoup pour les expositions ici, avec mon collègue Jean-Marc Foulon. Et donc, on a l'habitude de faire cette gymnastique, cet exercice, on va dire, qui est d'organiser le visuel de l'exposition. C'est-à-dire que les artistes, ils arrivent avec leur travail. Pendant 2 jours, ils doivent livrer leur travail, qu'ils posent ici. Et après, avec Jean-Marc, on dispose, on regarde ce qui fonctionne le mieux, à quel endroit dans l'espace de la galerie. Par exemple, cette sculpture qu'il y a ici, que l'auditeur ne verra pas.
Vous allez décrire ?
Que je vais décrire, mais que surtout, ils vont venir voir. Que décrire, c'est difficile de la décrire, franchement. Il faut qu'ils viennent la voir. Mais bon, cette sculpture, elle s'est imposée ici. C'était une évidence, quoi. Pour la mettre en valeur, dans ce grand carré blanc et dans la vitrine, il fallait qu'elle soit là. Et effectivement, elle y est bien. Après, elle entre en résonance avec des volumes qu'il y a en bas. Il y a une certaine verticalité dans tout ça. Alors, c'est vrai qu'on avait au moins le fil conducteur du rouge, ça c'est sûr. Mais, on a organisé aussi selon les formats, selon la verticalité, etc. Pour que ça fonctionne, pour que ce soit fluide au regard. C'est-à-dire qu'on tient compte à la fois des données plastiques, c'est-à-dire visuelles des travaux, mais aussi des données thématiques, comme ici, par exemple, on est plutôt dans une imagerie surréaliste. Et en haut, dans une petite niche, on a un tableau sur l'Espagne avec des corridas, des vêtements de toréador, avec l'ombre d'un toréador. Et devant, on a mis la petite statuette qui représente une danseuse de flamenco. Donc, c'est un exercice intéressant à faire de toute cette organisation visuelle de l'exposition pour que tout rentre en résonance, pour que ça fonctionne, pour que la vue d'ensemble soit agréable.
Cette résonance, vous la captez effectivement, on le voit bien ici en entrant tout de suite. Il y a un jeu de lumière également que je remarque que vous avez particulièrement observé.
Oui, alors c'est simple, hein, on se débrouille pour que les choses soient mises en valeur par l'éclairage. Et on a un système un peu rudimentaire, donc on se débrouille avec ça. Parce que c'est pas toujours évident, quoi. Mais bon, on s'en sort du mieux qu'on peut pour mettre les travaux en valeur.
Elisabeth Vivet, donc céramiste dans ses passions, et aussi dessinatrice, quand j'ai découvert, voilà, au gros coin de ce coin d'atelier. Et pour moi, c'est une grande surprise, ses dessins. Et voilà, enfin, j'ai réussi à lui faire exposer un dessin.
Elisabeth, de quelle façon est-ce que vous avez été amenée à venir à exposer ? Est-ce que Christophe vous a sollicité ? Comment ça s'est passé ?
Alors oui, bonjour déjà. Oui, Christophe m'a sollicité X fois, mais je ne prends jamais le temps. Et là, je me suis dit, allez, allons-y. Pour le plaisir de partager, déjà. Et mieux rencontrer ces gens de Sistart, que je connais un petit peu, mais sans plus. Le plaisir de montrer autre chose que ma céramique. Voilà.
Parce que là, il y a vraiment une question de confiance, hein, je m'adresse aux artistes qui sont ici. Une relation de confiance, il faut, parce que, bon, on est là, on va quelque part aussi se dévoiler, on est bien d'accord.
Oui, et moi j'ai été très très agréablement surprise dans la manière dont mes œuvres ont été présentées. Déjà, j'ai choisi le socle qui est une œuvre en elle-même au dernier moment, et je me disais, mais ça fait super surchargé, ça ne va pas. Mais ils ont fait un choix, parce que j'avais amené un autre dessin, qui était judicieux pour mieux voir les différentes parties de cette œuvre.
À force de voir le travail qu'on fait, ça finit par... Parce qu'on avait des contestations au début, un peu plus que maintenant. On avait quelques contestations, disant non, il ne faut pas me le mettre là, il faut le mettre là, etc., etc. Il faut savoir une chose, ce qu'on fait, ça tient quand même en une phrase, c'est qu'on ne juxtapose pas les œuvres, on compose une exposition. Donc on ne les pose pas les unes à côté des autres au fur et à mesure qu'elles arrivent. Sinon, ça pourrait être assez... On dit imbuvable pour l'œil, peut-être pas, mais bon, on va dire comme ça. Oui, les expos, des expos collectives, moi j'en ai connu effectivement, où chacun accrochait son truc par ordre d'arrivée, et il n'y avait aucune cohérence, quoi. Donc ici, on travaille quand même sur la cohérence.
La rigueur dans une ambiance qui est très détendue aussi.
Ah oui, 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 très détendue, et puis... moi je travaille avec Jean-Marc Foulon, on se connaît depuis 40 ans. Il n'y a pas de problème... On tombe très vite d'accord sur la façon d'organiser les choses. On pose tout à l'intuition, on se dit ça va plutôt résonner là. Là on les pose par terre dans un premier temps. Après, on les essaye. On dit ça marche pas. Ah oui, ça marche, c'est bon, on laisse. Et alors, si ça marche pas, on dit non, ça, on va le mettre ailleurs. Après, on réfléchit sur tout l'espace de la galerie où ça peut aller.
Daniel Riquejo, vous êtes artiste, vous exposez ici dans cette galerie. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu, disons peut-être, à la présentation de l'artiste que vous êtes ?
Alors, un artiste rare, c'est-à-dire rarement inspiré. Et là, ça a été sur l'insistance de Christophe, ça a été l'occasion de me remettre au travail et de retourner vers la création, on va dire ça comme ça.
De quelle façon est-ce qu'il vous a convaincu alors ? De quelle façon il vous a amené à exposer ? Parce que visiblement, on parlait tout à l'heure un peu de la solitude de l'artiste, hein, vous aviez un peu refermé les portes.
Je ne sais pas dans quel sens c'est si on referme, mais est-ce que c'est les portes de l'inspiration ou est-ce que c'est l'inspiration ? Est-ce que c'est dans un sens ou dans l'autre ? Disons que j'étais en panne d'inspiration, on va dire ça comme ça. Et là, c'est une pièce que j'avais, mais que j'ai complètement repris et retaillée. Et c'est une pièce qui a 20 ans d'histoire et qui a une vraie histoire. Et ça se voit peut-être d'ailleurs, qu'il y a des couches successives.
Est-ce que vous êtes surpris dans votre, non seulement la réalisation, mais votre réaction ?
Pas vraiment, non. Ça fait partie de la vie. Et encore une fois, Christophe a été un bon moteur. C'est-à-dire sans trop insister et au bon moment, je dirais.
Est-ce que reprendre une pièce, ça veut dire renouer avec le passé quelque part et vouloir peut-être aussi vivre avec le présent ?
Oula ! Qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? Oui, clairement, il y a une boucle qui se fait. J'entrerai pas dans l'histoire parce que c'est vraiment une histoire personnelle. Mais ce qui reste de la première pièce, c'est la tension dans les... Attention dans les bois. Après le reste, c'est venu. J'ai fini la veille du moment où on devait la rendre, quoi. Donc ça a été fait dans l'urgence. Moi, souvent, je travaille. Le peu que je travaille dans l'urgence.
Ça vous ressemble peut-être un peu aussi, non ?
Oui, ça pourrait. Mais oui, quand je travaille dans l'urgence, mais je travaille très peu. Et après, pour discuter sur l'œuvre. Sans vouloir faire de grandes phrases sur l'art, ma démarche, c'est que la personne se faire travailler le spectateur. Je veux qu'il ait sa part de boulot dans l'approche de mon travail.
Et de complicité alors. Qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous avec 27 artistes ici à Sisteron, cette façon de rassembler les artistes avec Christophe ?
Je suis à la fois étonné et pas étonné, parce que d'abord l'association existe depuis très très longtemps. Je nettoyais ma boîte mail il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé des mails de 20 ans en arrière. Donc voilà, il y a une pérennité dans l'association. Christophe, la présidence, donne un souffle qui moi m'intéresse.
Christophe Ponsard, le thème donc à cette exposition, le rouge. Qu'est-ce qu'on peut percevoir avec ou dans le rouge ? De quelle façon est-ce qu'on peut le décliner ? Il y a plusieurs façons.
Oui, il y a tellement de façons possibles. D'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est samedi donc qui est passé, un groupe de migrants en fait, donc avec une expérience, un vécu et une culture un peu différente de ce qu'on moi je pourrais avoir. Et leur perception, en fait, en écho, m'a beaucoup passionné, m'a même fait vibrer. Il y avait donc pour eux de l'amour, de la passion, bien sûr, un sentiment de gaieté, quelquefois de la colère, mais surtout un peu de tristesse, c'est ça. Donc on le perçoit, enfin, il y a très peu de personnes peut-être qui peuvent le percevoir, mais en fait, le rouge, effectivement, est une couleur plutôt parlante, qui depuis toujours, je pense, passionne aussi les artistes. C'est un peu, dès le Moyen-Âge, même bien avant, ça a été assez quelque chose de spirituel aussi, en lien avec la religion, probablement. Et aujourd'hui, en fait, en ouvrant un peu l'esprit, et en allant un peu plus profond, effectivement, il y a le sang, il y a la vie, en fait, voilà, toutes ces émotions qui peuvent nous surgir et nous souvenir. Enfin, nous faire réagir tout au long de la journée, tout au long de l'année, tout au long de notre vie, en fait.
Est-ce que vous avez été surpris par justement ces façons d'interpréter le rouge par quelques-uns des artistes qui exposent là sur ce rendez-vous ?
Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de matières, en fait, effectivement, qui ont été traitées. Et les supports, d'ailleurs, sont très différents les uns des autres. Et là, je fais justement un coup de chapeau aux deux commissaires qui ont su vraiment travailler, voilà, tels des chefs d'orchestre, en fait, on va dire, pour nous enchanter de cette mélodie de l'œil.
En prenant la présidence de Systart, une de vos missions, et vous l'aviez confiée à notre micro, c'était fédérer les artistes. Là, sur cette exposition, visiblement, vous avez déjà réussi un de vos premiers objectifs.
Oui, ça, c'est vrai que ça me chauffe le cœur. C'est vrai que la réponse à l'appel, il n'y a pas fallu que je parle très très fort. En fait, il a fallu juste peut-être insister, revenir un petit peu, mais ça se prépare depuis pas mal de temps. Ça se prépare sur du long terme, effectivement. Mais une confiance, un retour de confiance, en fait. C'est posé en fait dans cet atelier et ça fait plaisir.
Paradoxalement, l'artiste est parfois seul. L'isolement de l'artiste. Alors il faut aller contre cet isolement, il faut aller les chercher. D'ailleurs, j'ai demandé à nos artistes si l'isolement, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'isolement de l'artiste ? Parce qu'en même temps, il y a ce côté où vous avez besoin de communiquer aussi. Est-ce que parfois,
Oui, il y a les deux. C'est vrai que l'isolement de l'artiste, il est souvent nécessaire, parce que c'est vrai que l'artiste, il aime bien créer dans son isolement, tranquillement, qu'on ne le dérange pas, etc. Et après, il a besoin aussi d'une forme de socialisation, déjà montrer son travail, oui, et puis aussi rencontrer d'autres artistes. Et c'est vrai qu'on a un peu cet objectif-là, à Systart, que les artistes se rencontrent, entre autres avec ce qu'on fait tous les ans depuis quelques années, les rencontres d'artistes sur la place de l'horloge, qu'on fait ça l'été. Et ça nous permet aussi de fédérer d'autres artistes par la connaissance des uns et des autres. On arrive à faire exposer avec nous. Et puis ça fait à la fois agrandir le cercle et aussi, faire un roulement d'artistes autour d'un noyau central qu'on a peut-être à Systart. Et il y a d'autres artistes, comme ici, qui viennent se joindre à nous sur des expositions ponctuelles. Donc, pour en revenir à question... À la fois, l'artiste il a besoin d'isolement, oui, mais il a aussi besoin d'être socialisé, s'il le désire, on ne va pas l'obliger. Parce qu'on a des artistes très discrets ici, et on en a qui sont moins.
Est-ce qu'il a besoin de se tirer lui-même de certaines situations dans lesquelles il est dans une forme de solitude ? Il faut se ramener peut-être au contact ?
Oui, je pense que c'est nécessaire pour certains, oui, de sortir de la solitude, oui, pour ne pas des fois non plus s'enfermer dans sa création. Mais ça a besoin d'ouvrir son travail aux autres, oui.
Cette solitude, elle est donc indispensable ?
Pour moi, oui. Après, ça me pose question, votre question. Moi, je ne me trouve jamais assez seule. Et en même temps, j'ai jamais assez de temps pour partager. Parce que je partage beaucoup dans mon atelier aussi. Il est ouvert au public et je prends vraiment le temps de discuter avec les gens qui viennent. Du coup, j'abandonne un peu mes relations comme Christophe. Les personnes que je connais, finalement, je ne vais pas trop vers eux. Et aujourd'hui, là, j'ai eu le plaisir de parler avec Jean-Jacques, mais pas forcément d'art, de vie. C'est plus des réflexions sur la vie des gens qui m'intéressent qu'un partage sur l'art. J'ai fréquenté beaucoup les Beaux-Arts à Digne et quand je suis en groupe, je me perds. Je parle avec tout le monde.
Si vous êtes moins créative en groupe ?
En groupe, je fais rien. Je suis incapable de cuisiner si j'ai une amie à la maison parce que je la regarde pour lui parler. Du coup, je ne fais plus rien. Du coup, j'ai vraiment besoin de cette solitude. Et je préfère partager dans le vide, dans le non-travail, quoi, dans la rue, dans ici, quand moi je n'ai pas à faire.
Est-ce que l'ambiance s'y prête quand le visiteur rentre dans la galerie? Est-ce que la relation s'y prête tout de suite? Est-ce que comment vous sentez la personne qui va venir quelque part absorber un tout petit peu de votre identité?
En fait, si les gens ont envie de se livrer, on peut discuter pendant une heure. S'ils ont envie d'être curieux, ça dépend des gens. Pas forcément de moi. Comme Jean-Jacques parlait de confiance qu'on peut leur remettre quand on vient poser des œuvres, c'est pareil, c'est une confiance qui s'établit avec les gens sur ce qu'ils nous racontent, ce qu'on leur raconte et qui nous appartient qu'à nous, qu'on ne va pas les divulguer. C'est des petits moments de bonheur, des petits jardins secrets, des petites choses, grâce sûrement à l'art, puisque si je vendais des outils, je ne pense pas qu'il y aurait cette relation. Donc grâce à l'art, je pense que les gens se sociabilise globalement.
Jean-Jacques, de quelle façon s'est orienté le choix du thème rouge pour l'exposition ?
Le thème rouge, alors ça s'est déclaré lors d'une réunion où on tournait autour de quelques thèmes et puis à un moment il y a quelqu'un, l'un d'entre nous, qui a dit prenons rouge et puis voilà, c'est simple comme ça. Et puis du coup on s'est un peu regardé, on a dit oui ok c'est bien, rouge, et c'est parti là-dessus.
Et vous-même, Jean-Jacques, le rouge, vous l'interprétez comment ? Vous le ressentez, disons, comment ? Qu'est-ce que vous avez envie de traduire par des mots sur le rouge ?
Ah, par des mots ? Oulala. Bon, après, il y a plein de connotations sur le rouge. Il y a la chaleur, ça peut être la colère, ça peut être des tas de choses. Moi, par rapport à rouge, c'était un choix qui me convenait. Pourquoi ? Parce que, étant donné que je fais de la peinture plutôt abstraite, il y a certains thèmes où je suis obligé de me glisser dans quelque chose où c'est plus difficile pour moi. Il y a certains thèmes qu'on a choisis parfois qui appelaient plus quelque chose de figuratif qu'abstrait. Alors que rouge, dans une peinture abstraite, tout est possible. Voir mes toiles qui sont derrière vous.
On ne peut pas les décrire, hein, c'est comme...
Mais il faut que les gens viennent les voir.
À quelle adresse ?
C'est donc au 36 rue Mercerie à Sisteron, l'atelier Sistart qui commence à être connu.
Elisabeth, le rouge ?
Alors moi, le rouge, quand Christophe m'a dit « on fait une exposition sur le rouge », je lui ai dit « mais moi, je n'ai pas de rouge, je ne travaille pas le rouge ». Et c'est vrai que c'est rare que je travaille le rouge, en céramique en tout cas. Et quand j'ai regardé mes dessins, je me suis dit « ah, mais si, j'en ai un peu quand même ». Mais ce n'est pas une couleur vers laquelle je vais automatiquement. Pour moi, elle est trop voyante, globalement. Alors que quand je suis ici, je ne suis pas du tout agressée par tout ce rouge. Je m'y sens bien, c'est feutré. Mais moi, en céramique, je préfère les tons plus doux, les couleurs plus froides. Et si on me disait de travailler avec le rouge, mon problème, c'est qu'après, j'ai envie de couleurs franches, de couleurs primaires. J'ai envie de jaune, de vert, de couleurs crues. Le rouge m'appelle à des choses plus carrées, moins poétiques, plus modernes. Après, j'aime le mobilier rouge parce que je trouve qu'il est fait moderne. Si j'en mets chez moi, je ne peux pas le supporter. Je préfère le bordeaux. Pour moi, il y a un côté agressif au rouge, s'il est franc. Voilà.
Parce qu'au départ, quand on propose ça, c'est une contrainte. Après, on dit qu'on est créatif dans la contrainte. Il y a des grands artistes qui l'ont dit, etc. À la fois, c'est une contrainte, mais c'est aussi une proposition ouverte. C'est-à-dire qu'on est obligé, d'accord, de travailler autour du rouge ou dans l'idée de rouge. Mais à partir de là, il y a plein de possibles.
Christophe Pansard, le rouge pour vous ?
Le rouge, oui, pour moi, en fait, là, cette fois-ci, j'ai pas pu, pris un peu par le temps, moi-même, dans l'organisation. J'ai pas pu éventuellement poser un visuel. Mais le rouge, oui, c'est la passion, en fait, voilà, tout simplement. La passion de l'art, de faire vibrer, ou de vibrer, en fait, soi-même. C'est pas trop de faire vibrer, en fait, c'est surtout de vibrer soi-même et de se sentir vivant.
Nous sommes ici dans un lieu qui se prête tout à fait à cette exposition, avec plusieurs niveaux, pour décrire un tout petit peu, pour les personnes qui ne sont pas encore venues ici à la galerie.
Alors la galerie, oui, c'est un rez-de-chaussée, donc d'une quarantaine de mètres carrés, on va dire, sur lesquels donc, les murs habillés de noir et de blanc mettent en valeur effectivement ce rouge qui ruisselle, qui s'impose un petit peu de partout. Après, donc, il y a un petit étage avec une mezzanine sur laquelle aussi la deuxième partie de l'exposition se fait. Oui, effectivement, il faut un petit peu d'espace pour mettre en place ces 27 artistes. Je vous sollicite à venir découvrir cet espace aussi, et puis en cours d'amélioration, parce qu'on essaiera aussi de l'améliorer encore.
Christophe Ponsard, un petit rappel de ce rendez-vous.
Oui, alors ce rendez-vous, donc, c'est au 36 rue Mercerie, à Sisteron, et c'est jusqu'au 20 décembre. Voilà. Et bon, peut-être si vous insistez, on pourra peut-être prolonger d'un ou deux jours. Voilà. Mais insistez.